sinon notre capacité à aimer. Construire de l'éternel, c'est élargir ce qui en nous est de l'amour. C'est d'une façon ou d'une autre, il y a plein de manières de le faire, mais c'est laisser l'amour prendre de la place dans notre vie et le reste par un effet logique, du coup on occupe moins. Et plus on en. C'est-à-dire que une vie qui ne s'intéresse pas à l'amour du prochain et à l'amour de Dieu, une vie qui s'intéresse à tout un tas de trucs autres qui n'ont rien à voir avec ça, est une vie de fait qui risque quand même de finir entre quatre planches. Parce que tout ce qui la constitue sont des choses qui passent. Et l'amour est ce qui ne passe pas. Donc vous avez parfaitement bien vu où je voulais en venir. Monsieur, vous disiez, mais vous aviez peur qu'on exclue les autres gestes. Alors, je ne suis pas tout à fait sûr de comprendre ce que vous voulez dire par là. En tout cas, moi, je n'ai pas posé une liste limitative des gestes qui construisent de l'éternel, d'une part. Et d'autre part, vous dites qu'il y a quand même des gestes dans lesquels il y a des scories. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que dans ce qu'on fait de bien, dans notre manière même d'aimer notre prochain, on voit bien que tout n'est pas chimiquement pur. Mais c'est une tentation chimiquement pure. À vouloir être absolument, avoir l'intention parfaite, un machin, on finit par plus faire grand-chose. Accepter que la vie humaine soit marquée par des scories, des difficultés, pour reprendre votre mot, ou des choses qui font que bah, notre intention n'est pas totale. Et oui, on aide son prochain et en même temps, on y recherche une manière, une forme d'accomplissement pour soi, et où, je ne sais pas quoi, où on cherche à passer le temps. Hein. Très bien. Oui, on est compliqué, le cœur humain est compliqué et malade. Mais il n'empêche que, et c'est là que je crois qu'il y a vraiment une espérance, c'est que dans cette vie humaine dans laquelle il y a de l'amour propre et tout ce qu'on veut, on peut bâtir quelque chose qui soit réellement de l'amour. Parce que ça nous est donné par Dieu. Pas parce qu'on on est très fort pour ça. Et donc, je crois que ça rejoint beaucoup de gestes qu'on peut poser. J'en fournirais pas une liste limitative en disant « et les autres sont exclus ». Ces gestes que vous disiez joliment, et enfin avec, je pense avec justesse d'ailleurs, ajustés à celui qui est notre origine et notre fin d'ailleurs, Dieu, ces gestes-là sont heureusement nombreux. Et donc, vous demandiez, mais est-ce que l'éternel nous est déjà donné? Oui, je crois réellement que ce que le Christ nous propose dans l'Évangile prend plusieurs noms, mais qui désigne en fait la même réalité, le royaume de Dieu, la vie éternelle, la vie divine. C'est quelque chose que le Christ nous propose de vivre, nous propose d'y entrer dès à présent. C'est ce que les sacrements font grandir dans notre vie, c'est ce que la charité vécue fait vivre. Enfin, tout ça, c'est précisément ce que le Christ nous propose, heureusement, dès à présent. Et alors là-dedans, quid de la transformation du monde? Je commence en reprenant, vous avez employé une expression en disant la foi, la prière peuvent-ils être un moyen? Alors non, parce que Dieu n'est jamais un moyen, c'est un but. C'est-à-dire que on se trompe, je crois, quand on veut faire servir la foi chrétienne, Dieu, etc., a d'autres buts, même très intéressants, humains. Un théologien, un grand théologien, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Gustavo Gutiérrez. Gustavo Gutiérrez est le fondateur de la théologie de la libération. Vous voyez un peu la théologie de la libération, dans l'Amérique latine, une théologie fondée sur l'expérience populaire, avec des liens évident avec les mouvements de gauche, et Gustavo Gutiérrez, que j'ai eu la chance d'avoir comme professeur, avait critiqué un jour des amis à lui qui avaient un mouvement qui s'appelait, dans l'Amérique latine, Chrétien pour le socialisme. Et il disait, mais ça ne veut rien dire, Chrétien pour le socialisme. Il n'avait rien contre le socialisme, hein, Gustavo Gutiérrez, ce n'est pas le sujet, mais il disait, ça ne veut rien dire, Chrétien pour le socialisme. Quand on est chrétien, c'est qu'on est chrétien pour le Christ. On ne peut pas être chrétien pour autre chose. On ne peut pas se dire, je vais être chrétien pour transformer le monde. En revanche, on peut transformer le monde parce qu'on est chrétien. L'objectif de la transformation du monde pour un chrétien, c'est de faire avancer le royaume de Dieu. Alors, il avance sans nous, vous me direz, mais il avance aussi avec nous. Pas sans la grâce, mais il avance parce que, justement, on s'engage pour faire avancer le royaume de Dieu. On a le droit, ce faisant, de faire un bout de chemin avec des gens qui ne s'intéressent pas spécialement au royaume de Dieu, mais il se trouve qu'on tombe d'accord pour dire que la justice, c'est quand même un bon objectif, et pour le royaume de Dieu et pour la vie ensemble, eh ben on peut travailler avec des gens qui n'ont pas pour objectif le royaume de Dieu. Mais la transformation du monde, ce n'est pas une valeur en soi, ce n'est pas une fin en soi. La transformation du monde, c'est l'enfantement du royaume de Dieu, c'est ça qui nous pousse. Et donc, non, on n'est pas chrétien pour transformer le monde, mais c'est bien l'inverse. Parce qu'on est chrétien, on va chercher à le transformer. La prière ou la foi ne sont plus alors des moyens de la transformation du monde, mais des lieux avec tout un tas d'autres engagements où le royaume de Dieu peut advenir.
Moi, j'ai un problème sur le terme de la vie éternelle.
Décidément.
Puisque vous avez bien montré qu'il y a un contresens possible sur ce terme-là, puisque spontanément, on pense à la vie après la mort, ce qu'elle n'est pas. Est-ce qu'il ne faut pas changer le terme éternel ?
Le terme éternel.
Pour mieux comprendre.
Alors, moi, je me posais une question par rapport au moment où vous parliez des nouveaux baptisés. Alors, étant moi-même un de ces nouveaux baptisés, je me posais la question, parce que comment ne pas bâtir notre espérance sur une image peut-être même chimérique un peu du passé de l'Église, sachant que même si actuellement on ne parle pas aux pertes de baptême chez les enfants et autres, ça peut être aussi un relèvement de l'Église qui... on va dire d'une gloire passée, mais là justement on rentre dans l'espérance un peu caricaturale que vous décriviez, où tous ces nouveaux baptisés, avant de voir les répercussions sur tout ce qui va être baptême maintenant, ça va demander du temps. Alors comment bâtir une espérance qui va forcément ne pas être placée sur un retour sur un passé révolu? Vous disiez au début qu'en tant que catholique, on entendait assez peu parler de l'espérance, en tout cas, on avait assez peu à en dire. Ma question est un peu intéressée, mais en parlant avec des gens, comment en une minute, on peut leur dire c'est quoi l'espérance catholique ?
Une dernière.
J'ai buté sur les mots là. Éternel et éternité à plusieurs reprises en disant c'est hors, ils se sentaient très loin dans le temps, dans la géographie, dans tout. Et à un moment donné, j'ai eu comme cette révélation, c'est les protestants qui utilisent beaucoup le terme éternel pour parler de Dieu, et d'un coup, ça a été clair, je me suis dit, bah oui, le soir, où est-ce qu'il y a eu Dieu dans ma journée, comment j'ai construit du Dieu, et du coup, ça m'a vraiment aidé. Donc, merci.
Alors, construire du Dieu, j'entends bien que vous le disiez de façon expérimentale et pas théologique, mais vous rejoignez la question de monsieur sur mince, est-ce qu'éternel n'est pas piégé ? Mais tous les mots sont piégés. Tous les mots sont piégés tout le temps. Pourquoi ? Parce que constamment, tout le monde croit savoir déjà à l'avance. Et au fond, bah, c'est le boulot justement de la prédication chrétienne, qui n'est pas forcément en fait par des clercs, c'est de dire attention, ça n'est pas ce que vous croyez nécessairement. Mais c'est vrai même quand on lit la Bible. Quand on lit la Bible, j'avais un prof de Nouveau Testament qui disait quelque chose d'extrêmement juste. Il disait, quand vous lisez une page d'évangile et que vous avez tout compris, c'est que vous n'avez pas compris. Il faut, pour commencer à comprendre, il faut comprendre ce qui pose problème, ce qu'on ne comprend pas. Et là, on peut commencer à s'y mettre. Mais c'est-à-dire que tant qu'on ne lit dans l'Évangile que ce qu'on sait déjà, qui n'est pas forcément faux, Donc on relit quelque chose qu'en fait on savait déjà, c'est qu'on ne l'a pas lu. Moi, il y a quelque chose à nous dire de nouveau. Et tant que le discours ecclésial ronronne, c'est-à-dire oui, de toute façon on sait ce que c'est, on n'écoute rien, puisque tu vois, on sait d'avance. Et donc il faut arriver à trouver des moyens de dire autrement, voilà. Bon, alors quand on a une heure devant soi, c'est quand même plus simple. Quand on a une minute devant soi, c'était la question de monsieur. Alors comment on fait quand on a une minute devant soi? Bonne question. Non, moi ce que je ferais comme ça, mais peut-être que j'ai tort là, il me semble que la question du temps de l'espérance, le présent, enfin le passé, l'avenir ou le présent, peut être un truc relativement pédagogique en une minute. Mais en une minute, on ne fait pas de miracle. On prie pour les gens en se disant j'espère que tu vas mieux comprendre que je me sais expliquer. comment, demandiez-vous, ne pas être tenté de bâtir son espérance sur une gloire passée? D'abord, peut-être en étant un peu réaliste sur la gloire passée. C'est-à-dire que si la chrétienté, ça avait si bien marché, eh ben, on y serait encore. Si l'Église, comme force sociale dominante, ça évangélisait vraiment, eh bien, il y aurait beaucoup de saints. Et je ne dis pas ça pour accuser le passé, le condamner, le machin, etc. Le passé, il est passé. Ça n'a aucune importance. Mais il ne faut pas l'idéaliser non plus. Et se dire, à l'époque où on avait des taux de baptême et de première communion en France qui dépassaient les 95%, tout était parfait. Non. Non, c'était loin d'être parfait dans la vie morale des gens, dans leur vie de foi, dans la vie de la société elle-même. Il y a plein de choses qui nous révoltent. Le moment où la société française a été la plus catholique, c'est les années 1890. Cette décennie-là, qui a été la plus, en termes de pratique religieuse, qui a été le sommet absolu. Mais est-ce que c'est la... Oui, c'est pas l'Ancien Régime. L'Ancien Régime, les gens se marient pas, les gens font des gosses partout. On a parfois des fausses idées. Mais est-ce que, pour autant, c'était parfait? Pas sûr. C'est-à-dire qu'il y a on aurait plein de bonnes raisons de ne pas vouloir vivre dans cette décennie-là, dans l'Église. Et je crois que avoir un peu d'espérance juive dans le chrétien, c'est pas se dire Dieu va nous restaurer ce passé loin d'être parfait, mais au moins où on occupait un espace et un pouvoir. Mais non, Dieu va nous aider à construire quelque chose de bien meilleur. Une fois encore, c'est pas le encore. Je veux le retour du passé, mais on peut faire beaucoup mieux. Et on va le faire.
J'entends bien, et ça me va bien d'entendre que l'espérance chrétienne, c'est pas croire que ça va aller mieux demain. Et en même temps, est-ce que ça ne fait pas partie de notre espérance que de souhaiter, y compris pour demain, un monde meilleur, plus fraternel, où on voit davantage le royaume de Dieu à l'œuvre, que ce que notre monde, en tout cas, nous donne aujourd'hui à voir avec un certain nombre d'éléments que vous nous avez décidé. Et en particulier, les enfants, les petits-enfants, est-ce que ça ne rentre pas aussi, finalement, dans notre espérance, ce sur quoi on peut prier, que ce désir d'un monde plus fraternel.
J'ai bien noté dans la présentation que vous aviez écrit des ouvrages sur l'islamologie, qui nous dit en clair. Moi, dans ma vie aujourd'hui, dans mes activités, je côtoie davantage de musulmans que de chrétiens, sauf ce soir. Chez les uns comme chez les autres, il y a des choses qui m'agacent beaucoup, il y a des choses que je trouve merveilleuses. Mais la question que je pose, c'est comment bien vivre cette expérience, cette espérance dans la cité, alors que j'écrirai avec un petit C ou un grand grand C, qui n'est pas chrétienne.
cette conférence, pour moi, je relis pas mal cette question d'espérance, finalement, à la notion du que l'on se fait du temps. C'est-à-dire, le temps chronos, celui qui s'écoule, il y a un passé, un avenir, qui n'existe pas, mais dans lequel on est inséré, et puis un autre temps, qui est le kéros, et qui est un temps favorable à Dieu.
Oui, j'entendais que l'éternel, c'est notre capacité à aimer. L'espérance, c'est peut-être notre volonté d'aimer. Et je dirais le principal également, et le souci aujourd'hui, c'est notre capacité à vivre ensemble. Et je me posais la question, avec votre position privilégiée au Caire, dans le monde musulman, comment est-ce qu'est vécue l'espérance, voilà, au Caire aujourd'hui, avec nos frères musulmans?
Alors, sur le Kairos et le Chronos, je pense que c'était plus une remarque qu'une question, et donc je n'ai pas de réponse à apporter, sinon que je suis tout à fait d'accord. Souhaiter que demain aille mieux, est-ce que ce n'est pas partie de notre espérance? Parce qu'on n'a pas quand même le droit de le souhaiter, même si, en tant que chrétien, est-ce que c'est quand même pas mieux de souhaiter que le monde aille mieux? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut prier pour ça? Oui, clairement. Mais si demain éclate une guerre, ça ne veut pas dire que notre espérance s'est fourvoyée. C'est-à-dire que, non, Jésus n'a pas promis que tout se passerait bien. Il a même exactement, explicitement dit le contraire. Tout allait mal se passer. Et pour des raisons assez simples, hein, c'est que le Christ présentant l'amour de Dieu, présentant la vie éternelle, engendre à la fois de l'adhésion et du rejet. Depuis la venue même du Christ, il y a un rejet de l'amour de Dieu, une acceptation de l'amour de Dieu. Ce n'est pas juste je prends ma carte chez les chrétiens ou pas, mais ce qui va mener à la croix. Et depuis toujours, on vit, l'histoire humaine est faite de conversion et de rejet violent de l'amour de Dieu. Et si on regarde un petit peu les causes du malheur du monde qui risque de nous emporter tous, si on prend le risque nucléaire à la base de ça, alors on va me dire oui, mais il y a la géopolitique, très bien, très 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 bien, mais au départ du départ, il y a cette volonté humaine de se dominer mutuellement, qui amène à créer des armements, et des armements toujours plus sophistiqués, et pour finir, des armements capables de détruire, quelle en soit la planète, sans bouger les oreilles. Le risque climatique lui-même, enfin le risque, plus qu'un risque, ce que nous vivons là, on peut l'expliquer de plein de questions techniques, etc., mais à la base, à la racine, qu'est-ce qu'on a? On a cette volonté de posséder davantage. On est sur du péché tout à fait classique quand même, hein, qui amène à la destruction, ce qui amène à la destruction de l'humanité, ce qui nous détruit, c'est du péché tout à fait simple, c'est du rejet de l'amour de Dieu. Et sa solution est au contraire dans l'acceptation de l'amour de Dieu, dans la sainteté. Je ne sais pas si le fait de dire qu'on peut régler nos problèmes en devenant tous saints, ça vous remplit d'espérance tout de suite, si vous dites « Ah ben c'est bon, on a une solution les gars, on va tous devenir ça, non ?» Mais réellement l'histoire humaine, ce que je veux dire par là, c'est qu'elle est marquée par le tragique. Il y a du tragique dans l'histoire humaine, et il faut le savoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'y complaire en se disant ben, « Vivons dans le tragique et puis on s'en fiche. » Non, il faut chercher à améliorer les choses, bien sûr, mais ce tragique-là, quand bien même on aurait trouver les meilleures institutions possibles, il ne disparaît pas, parce qu'il prend sa naissance dans le cœur de l'homme, dans la capacité du cœur de l'homme à choisir le péché. Et donc ça, on n'en est pas tout à fait sorti. Et notre espérance, ce n'est pas que ça va finir par se calmer et c'est bon, les gens vont finalement être gentils, mais c'est que dans ce tragique même, le royaume de Dieu continue à grandir. Alors, vous avez, il y a ensuite les deux questions qui se touchaient un petit peu. Comment vivre l'espérance dans la cité qui n'est pas chrétienne? Fort heureusement, on n'a pas besoin de se rassembler entre chrétiens pour vivre de l'éternité. Je pense que en prendre conscience est assez utile. Enfin, prendre conscience, poser des mots là-dessus, voir le Christ à l'œuvre, et pour ça, une communauté chrétienne, ça aide un petit peu. Et je mentionnais tout à l'heure les sacrements, tout ce qui fait grandir en nous la présence de Dieu est bon. Mais fort heureusement, un monde véritablement chrétien n'est pas un ghetto de chrétiens. C'est-à-dire qu'un monde chrétien qui s'enfermerait en se disant « et le reste ne nous intéresse pas, parce qu'entre nous on va réussir à faire grandir le royaume de Dieu », ne fait absolument pas grandir le royaume de Dieu. Il fait grandir, je ne sais pas quoi, mais un club dans le meilleur des cas, et une cité d'injustice et de haine, comme disait Peggy, dans le pire des cas. Il ne s'agit pas du tout de se dire on a besoin de... Au contraire, il y a dans la dynamique même de l'évangile un besoin de rencontrer ce qui n'est pas moi. Et ce qui n'est pas chrétien fait partie de ce qui n'est pas moi. Ce qui est toujours un peu dérangeant, parce que tout irait tellement mieux si tout le monde était chrétien, tout serait beaucoup plus simple, mais le monde n'est pas simple. Et c'est ce monde-là qu'il s'agit d'aimer, et pas un monde qu'on aurait simplifié avec nos principes en disant « ce qui n'y rentre pas ne m'intéresse pas ». L'Évangile nous dit toujours « non, tu vas t'intéresser précisément à ce qui est mal fichu, aux Samaritains ». Alors, on ne sait même pas s'ils sont juifs ou païens, ces mecs-là, on ne sait pas quoi en faire, Samaritains. Et bien, Jésus en remet une couche, dès qu'il nous raconte une parabole, il y a un Samaritain dedans. Et c'est le bon personnage. Non mais ça va. Voilà, donc comme pour nous rappeler qu'il y a quand même toujours un peu besoin de prendre en compte l'existence des autres comme autres. Et ça, c'est assez essentiel. Et non seulement comme autres, mais surtout comme être humain à qui Dieu parle. Que Dieu ne m'appartient pas. J'ai beau avoir fait des études sur lui, j'en suis pas propriétaire du tout. Et vous demandiez, votre question était très large, sur comment vivre l'espérance dans le monde musulman aujourd'hui, avec comment est vécue l'espérance, c'est très large. Mais moi, je peux vous dire en tout cas comment... Un élément qui me la vivifie, cette espérance, c'est quand, en parlant avec des musulmans, je ressens, parce que parfois ça me donne un peu la chair de poule, au sens positif, quand je vois que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans la vie spirituelle de tel ou tel musulman qui me parle de Dieu, et dans lequel, de sa manière d'en parler, évidemment qu'il ne me parle pas de Jésus-Christ, il ne me parle pas de... j'aurais certainement des choses à dire, oui, mais alors attention, au plan doctrinal, on ne serait pas d'accord, et je ne suis pas en train de dire tout le monde a un peu raison, ce n'est pas du tout mon objet, mais le fait est qu'il vit une expérience de Dieu.
C'est le dernier tour.
Alors, moi, c'est deux questions un peu sur l'espérance.
Près de votre bouche.
Oui, pardon. J'avais entendu beaucoup dans ce que vous dites, l'espérance face aux crises et aux sentiments d'impuissance qu'on peut avoir aujourd'hui, et de travailler pour construire l'éternité aujourd'hui. Comment vivre l'espérance dans la mort, par exemple? J'entends beaucoup l'espérance conjuguée au présent, mais l'espérance pour ceux qui nous quittent, comment on peut l'entendre? Et ma deuxième question, c'est l'espérance avec les miracles, face aux impuissances. Il y a aussi miracles des fois qu'on entend, et dans la foi chrétienne, il y en a des miracles, il y en a des miracles encore tout récents. Quelle est la place de ces miracles aujourd'hui aussi dans l'espérance, qui peut aussi des fois... décevoir finalement si ça ne se produit pas. Merci.
Tout le monde a envie de prendre le pot, hein. Alors, j'ai d'abord eu peur quand vous avez dit comment vivre l'espérance dans la mort. J'ai dit, je ne sais pas, je ne suis pas mort. Mais vous voulez parler évidemment de la mort des proches.
Ouais.
Eh bien, réellement, quand c'est arrivé d'être confronté à des morts un peu tragiques, de personnes jeunes, de personnes que j'avais connues, et ce qui, moi, sincèrement nourrit mon espérance et me permet d'en parler sans trop de difficulté. La facilité pour un prêtre, hein, c'est toujours de faire du défunt un saint, de dire, mais il est évidemment auprès de Dieu, on le sait, parfois on n'en savait pas grand-chose, mais on a envie d'être gentil, donc on est là. Mais précisément, si, dans la continuité de ce que j'ai essayé de développer ce soir, moi, ce qui peut vraiment nourrir dans ces cas-là mon espérance, c'est quand je sais que le défunt a construit de l'éternité. Que quand ce défunt a vécu de l'amour, a vécu un amour, une présence de Dieu qui a irrigué sa vie. Je me dis, cette vie-là ne peut pas se terminer comme ça. Je sais qu'elle ne se termine pas, puisqu'elle s'est abreuvée aux sources de l'éternité. Le brevet au moment où je bois. Voilà. Et quant au miracle, alors est-ce qu'il y a une place pour les miracles? Oui et non. Là-dessus, j'aurais sans prétention la même attitude que Dieu. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que Dieu, les miracles sont possibles. Il en est parfaitement capable. Rien n'est impossible à Dieu, sauf ce qui est logiquement impossible. Dieu ne peut pas. Créer une pierre tellement lourde qu'il ne puisse pas la porter. Mais ça, c'est une question de logique. Il ne peut pas faire de l'illogique, mais intervenir dans la chaîne des causes, il peut le faire. Le fait est qu'il ne le fait pas. Ou plutôt qu'il le fait très rarement. Il le fait très rarement pour une raison essentielle, c'est que Dieu n'est pas là pour régler nos problèmes. Ça, c'est le paganisme en nous qui essaie de voir en Dieu un Dieu plombier qui vient régler nos fuites d'eau. Enfin, j'exagère, parce qu'on a des choses parfois beaucoup plus tragiques et beaucoup plus sérieuses que les fuites d'eau, évidemment. Mais on aimerait bien, je l'évoquais un petit peu au début, faire des pactes et dire, je te donne ça et tu me donnes quelque chose, sauf que je ne donne jamais rien à Dieu. Et lui-même, en fait, n'est pas là pour régler nos problèmes. Même quand c'est des problèmes légitimes. Hein. On peut vivre avec plein de trucs où on a des problèmes. Dieu, il est là pour nous donner la vie éternelle, c'est-à-dire la vie divine, pour nous diviniser, pour nous faire que nous devenions ce qu'il est. Et c'est ça son boulot. Et là-dessus, donc, envoyer des miracles pour nous simplifier la vie, le fait est qu'il ne le fait pas. Et que même les miracles que Dieu fait, il les fait en général pour faire grandir en nous la vie divine, pour faire grandir en nous la vie éternelle. Et pas pour créer de l'adhésion. C'est jamais les miracles qui font la foi. Il y a même un moment très bizarre de l'évangile. On nous dit que Jésus ne pouvait pas faire de miracle parce que les gens n'avaient pas la foi. Il guérit seulement quelques malades, ajoute l'évangéliste. Alors là, il a quand même guéri 5-6 malades. C'est bon, il y a une manière de ne pas faire de miracle qui est quand même un peu à lui, mais il ne peut pas faire de miracle parce que les gens n'ont pas la foi. Enfin, c'est-à-dire que ça n'est pas, la foi ne se fonde pas sur les miracles. Et vous avez eu raison de le dire. Une foi qui se fonde sur l'espérance du miracle risque fort d'être déçue. Mais parce que elle prête à Dieu une promesse qu'il n'a jamais faite.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Adrien, pour ces échanges. Merci à vous d'avoir posé ces questions. Je vous avais promis 2 ou 3 choses tout à l'heure au début de cette conférence. Je vais commencer par donner la parole à Michel Billot, qui est en responsabilité pour les affaires écologiques de Dieu seul.
Bonsoir, merci de ces émigrants. Je viens à titre d'Amboise, une association qui existe et qui propose samedi prochain une conférence, donc on sera le 25 octobre. Une conférence avec Dominique Bourg, donc c'est à 20h, c'est au théâtre d'Amboise. Je vois si vous êtes intéressé.
Sur quel sujet?
Alors, c'est le sujet La Terre Tricitaine. Voilà.
La terre récréticaine. Je vais donner la parole maintenant à Olivier Tiberien, qui va nous parler en quelques mots d'Ecléria. Et après ça, nous pourrons nous déplacer de l'autre côté pour la partie librairie, dédicace et vers de l'amitié où nous pourrons échanger sur tout ce que nous avons écouté, entendu, compris aujourd'hui.
Voilà. Merci de me donner la parole. C'est un peu après Adrien, c'est pas le plus facile. Je voulais juste vous donner quelques informations sur Ecléria. Ecléria, décidé en chrétien. Alors c'est un mouvement d'église, c'est un mouvement œcuménique, c'est une régénération en fait de l'ancien MCC et qui se veut être une porte ouverte à l'écoute de nos vies et de notre monde. Il veut nous aider à partager en équipe, à discerner, à nous éclairer, à agir en chrétien, à concilier nos valeurs chrétiennes avec nos enjeux professionnels, les enjeux économiques. En fait, partout où nous avons des engagements et où il nous faut exercer nos responsabilités. Alors que nos décisions soient prises dans un esprit chrétien et aider à ce que les décisions des autres également soient prises dans un esprit conforme à la pensée sociale chrétienne. Voilà, être chrétien pour le bien commun. Donc Ecléria veut répondre à notre besoin de parler, de s'interroger, de s'entraider, de partager notre foi et de l'enrichir dans un monde où l'on a trop souvent de la peine à se reconnaître, à se positionner ou tout simplement à vivre. Voilà, donc on est heureux de vous offrir un verre de l'amitié et je suis disponible pour vous parler davantage de notre vie d'équipe et donc plus en avant du mouvement. Voilà, que ce soit une occasion de mieux se connaître, d'échanger avec Adrien et de passer un bon temps pour terminer cette belle soirée. Voilà, merci à tous.
Merci Olivier. Merci Olivier. Voilà, donc je vous invite maintenant à vous lever, à aller en haut des trois petites marches pour ceux et celles qui désirent découvrir un peu plus Ecléria et échanger sur le sujet de cette rencontre.
C'était